Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France va récupérer le flambeau, c'est cet après-midi que la Grèce va nous remettre la flamme olympique. Une cérémonie est prévue à Athènes et RMC est en direct ce matin sur place. Une vie qui tient à un bout de papier à Montpellier. Une femme séquestrée, sauvée par un couple parce qu'elle avait jeté par la fenêtre un mot de détresse. Témoignage à venir sur RMC. Et puis les producteurs de muguet qui alertent ce matin sur les vols à cette période de l'année. Certains dorment carrément dans leurs exploitations en ce moment.
Et puis notez mon invité politique à 8h30. Ce sera Raphaël Glucksmann, le candidat tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique pour les Européennes. C'est cet après-midi que la flamme olympique va officiellement être remise à la France.
Vous savez qu'elle a été allumée il y a une dizaine de jours en Grèce. Elle a sillonné la Grèce depuis. Elle va passer par Marathon aujourd'hui, avant donc une grande cérémonie prévue en fin d'après-midi au stade antique d'Athènes, où vous êtes en direct ce matin pour RMC, Julien Richard. C'est là donc que la France va récupérer la flamme olympique.
Oui, c'est le stade panathénaïque, un stade antique rénové pour accueillir en 1896 les premiers Jeux de l'ère moderne sous l'impulsion du baron Pierre de Coubertin, dont la statue trône devant l'entrée. Deux derniers porteurs de flamme français lors de cette cérémonie, Gabriela Papadakis, championne olympique de danse sur glace, et Béatrice Hess, ancienne nageuse aux 20 titres paralympiques. Moment fort attendu, la chanteuse franco-grecque Nana Mouskouri chantera la Marseillaise. Et vers 18h20, la flamme sera officiellement remise à la France, à Tony Estanguet, le président du comité d'organisation. Elle passera la nuit dans l'ambassade de France à Athènes. Le Bélem l'attend dans le port du Pirée, où elle embarquera demain matin dans une lanterne sécurisée. 12 jours de traversée de la Méditerranée à bord du fameux trois-mâts direction Marseille, avec une arrivée sur le sol français le 8 mai.
Marseille, le 8 mai. Marseille, dans un contexte social qui s'annonce d'ores et déjà tendu, puisqu'après les cheminots et les contrôleurs aériens, eh bien les dockers, les éboueurs et les agents RATP font pression sur leur direction à l'approche des Jeux pour obtenir, eux aussi, des primes ou des avancées sociales, comme les cheminots récemment qui ont obtenu de partir un an plus tôt à la retraite. Marion Gauthier, vous avez sondé tous ces secteurs pour RMC.
Ça va aller très vite, expédie le syndicat Force Ouvrière de la RATP. On veut le même accord que la SNCF sur les fins de carrière. Le préavis de grève est déjà posé jusqu'au JO. Je n'ai qu'une annonce à faire, cingle Laurent Djebali, le secrétaire fédéral. Courrier envoyé mardi à la direction. Rendez-vous fixé aussi sec à lundi prochain. Espoir aussi pour les éboueurs qui veulent une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Une grève n'est pas exclue pour le passage de la flamme olympique à Marseille, glisse un responsable national de la CFDT. Ça mijote un peu partout, dit-il. Ils n'ont pas voulu que les trajets des Français soient perturbés. Ont-ils vraiment envie de Jeux Olympiques au milieu des poubelles? Les dockers, eux, pourraient aussi entrer dans la danse. En négociation depuis des semaines sur les départs en retraite, notamment, la CGT Port et Dock menace à demi-mot. Si des réponses arrivent avant les JO, il n'y aura pas de problème.
Il n'y a pas qu'à Paris. Les tarifs des transports en commun vont aussi augmenter à Bordeaux, plus 3,6% au 1er juillet, l'offre étant plus conséquente selon le gestionnaire du réseau. La note de la dette de la France va-t-elle se dégrader? On aura la réponse ce soir. Deux agences de notation vont la mettre à jour, cette note, un indicateur important pour les marchés dans le contexte que vous connaissez du déficit public plus important que prévu. Nouvel exemple ce matin de la crise qui touche le secteur de l'immobilier. Le premier promoteur français, Nexity, vient d'annoncer 502 suppressions de postes dans le cadre d'un plan social pour tenter de faire 50 millions d'euros d'économie. Ce ne sera pas avant fin septembre, c'est ce que dit le groupe à Meunier-Lafchin.
Ce sont les effectifs du pôle promotion-construction qui sont concernés par ces suppressions de postes. Des départs inévitables pour Nexity, qui comme d'autres font face à la crise de l'immobilier, car depuis 2 ou 3 ans, le secteur voit ses coûts de production grimper, les normes pour construire se multiplier, et dans le même temps, la demande, elle, baisser, notamment à cause des taux d'intérêt trop hauts, ce qui pousse la filière dans une crise profonde, selon Bernard Cadeau, directeur du département immobilier et logement de l'Institut Sapiens.
C'est moins 30% minimum de permis de construire qui sont déposés et délivrés. C'est moins 30 à moins 40% de mise en chantier. Donc, il n'est pas surprenant, malheureusement, que, y compris des grands noms comme Nexity, soient impactés. Et lorsque les clients ne peuvent plus acheter ce que vous produisez, il y a forcément une conséquence, et malheureusement une conséquence sur l'emploi.
Des conséquences visibles chez d'autres grands noms également, puisque Bouygues et Vinci menacent aussi de supprimer des emplois. Au total, selon la Fédération des promoteurs immobiliers, ce sont quelque 300 000 postes qui sont menacés d'ici à 2025.
Le grand déballage dans l'affaire Kenji Girac. Les managers du chanteur regrettent que le procureur de Mont-de-Marsan ait divulgué l'intimité privée du chanteur en expliquant hier après-midi que Kenji Girac avait simulé un suicide après une dispute avec sa compagne dans la nuit de dimanche à lundi pour expliquer sa blessure par balle. Il est 8h05 sur RMC et encore un témoignage ce matin. Ça se passe à Montpellier où une femme battue et séquestrée a été sauvée grâce à un mot de détresse qu'elle avait jeté par la fenêtre. Un mot qui était écrit au dos d'une enveloppe. Aidez-moi, appelez la police, levez la tête, la fenêtre est ouverte, on me séquestre. Voilà ce qui était écrit. Jean-Wilfried Forquès, envoyé spécial de RMC à Montpellier, a recueilli le témoignage du couple de Montpelliérains qui a trouvé ce mot dans la rue et qui a prévenu les secours.
La rue est très étroite, peu fréquentée le soir, et pourtant Doha et Kevin décident de l'emprunter, ce qu'ils font très rarement pour rentrer chez eux.
On trouve un papier par terre et il y avait marqué « Aidez-moi, s'il vous plaît ». Il y avait l'adresse, le prénom de la personne et elle disait que la porte était fermée en bas. Bon, pour le coup, on s'est regardé, on s'est dit « Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que c'est pas une blague ?» Bon, on a quand même pris le papier en photo et on a cherché une patrouille de police.
Une patrouille de la police municipale, puis de la police nationale, arrive rapidement sur place.
Ils ont en effet trouvé une personne séquestrée qui est apparemment battue par son compagnon.
Il était improbable de trouver ce petit papier au sol, mais Doha a surtout eu le bon réflexe.
On était quand même heureux d'avoir quand même pu sauver cette personne. C'est un état de fierté si on peut tous s'entraider comme ça et faire attention et faire gaffe aux petits détails qu'on trouve des fois par terre, ça peut sauver des vies.
Le compagnon violent et la jeune femme devraient être entendus prochainement par la justice pour comprendre ce qu'il se passait au sein de ce couple.
Gérald Darmanin, favorable au couvre-feu pour les mineurs. Le ministre de l'Intérieur soutient les maires qui les ont ou qui vont les instaurer face à la délinquance comme à Béziers, à Nice, au Pen-Mirabeau, encore près de Marseille. Et alors à cette période de l'année, ce sont les producteurs de muguet, je vous le disais, qui sont inquiets et qui déplorent des vols à quelques jours du 1er mai. C'est la tradition, s'offrir un brin de muguet. Et alors certains producteurs dorment carrément dans leurs exploitations en ce moment pour éviter les vols. Tous les moyens sont bons en fait, Romain Poiseau.
Vidéosurveillance, barrage à l'entrée des serres, ce n'est jamais assez pour protéger les 50 000 brins de muguet que Patrick cultive.
Je pense qu'il y a carrément des gangs de voleurs de muguet, quoi. On met le poids lourd à l'entrée de la serre, on a clôturer le terrain, etc. Après, bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui décourage, quoi.
Et les producteurs ne sont pas les seuls à être menacés par les voleurs de muguet. Il y a une semaine, Fabien, un pépiniériste dans l'Oise, a été cambriolé. La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance.
Ils ont chargé pendant 4 heures. Avec les cagoules, les lumières, tranquillement. Ils ont fait leur course.
Il n'y avait pas encore de muguet, alors les voleurs ont dérobé tout le matériel nécessaire pour confectionner des bouquets, selon le gérant Fabien.
Il y a de la vannerie, il y a du contenant en zinc, il y a des paniers, il y a des contenants en céramique, agrafeuse, ouais. Ils ont tout pour travailler. Il manque plus que l'emballage et le muguet, mais bon, je pense que le muguet, ils vont le trouver.
Alors, en attendant le 1er mai, Fabien va dormir dans son magasin.
On reste 3-4 nuits à dormir avec notre muguet, et puis voilà. Tous les ans, c'est ça, opération camping.
Et il l'assure, tant que la vente de muguet dans la rue ne sera pas davantage contrôlée, il y aura toujours des vols.
La France, largement premier pays producteur de vin dans le monde. L'écart se creuse avec l'Italie. La production mondiale a pourtant chuté de 10% l'année dernière. Plus mauvaise vendange des 60 dernières années partout dans le monde. La faute à la météo, c'est ce que nous dit l'Organisation internationale du vin. Et alors la France est le seul pays à s'en sortir, entre guillemets, avec une production l'année dernière en hausse de 4%.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h08 sur RMC. On part tout de suite au standard. Il y a Thomas qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Thomas.
Bonjour Apolline.
Thomas, vous êtes chef d'entreprise dans le Val-de-Marne et vous vouliez réagir au témoignage de Grégoire tout à l'heure. Vous l'avez écouté, Grégoire, qui a raconté avoir fini par changer de prénom pour ne pas être systématiquement renvoyé à ses origines. Et il disait la difficulté que ça a été pour lui. Il parlait aussi du souvenir de son père. Et vous vous êtes reconnu, c'est ce que vous nous dites, Thomas.
Oui. Excusez-moi, il y a l'émotion qui revient, mais...
Je comprends, allez-y, prenez votre temps.
Entièrement reconnue dans cette histoire. Elle est un peu différente, la mienne, mais voilà, moi, j'ai été adopté très jeune. Mmh. Et en effet, avec un prénom et un nom à consonance arabe. Et mes parents ont eu la très bonne idée, je les en remercie et j'en serai jamais assez reconnaissant, de franciser et de me donner un nom français, donc le prénom de mon père et de ma famille adoptive. J'étais en milieu rural à l'époque, j'ai 48 ans, donc j'étais au fin fond de... Je dirais pas où, parce que j'ai aujourd'hui des activités assez exposées et je veux pas qu'on me reconnaisse.
Ouais.
Et ça a été très très difficile parce que aussi bien à l'école, dans mon petit village, que dans ma famille adoptive, j'ai été, et puis même parfois, alors quand je dis à l'école, c'est les gamins de mon âge, mais aussi certains profs, faut pas se voiler la face, ça a été le cas, j'ai été victime de ce qu'on peut appeler du racisme, tout simplement. Et ce qui m'a fait sortir de là, et c'est là où le témoignage de Grégoire m'a ému, et je me suis complètement reconnu là-dedans, c'est cette envie de prouver au monde entier, en tout cas à mon entourage de proximité de l'époque, que même avec ce fardeau que je portais, parce que c'en était un, on pouvait réussir. Et je me suis acharné, alors j'avais des facilités, mais j'avais une envie de bouffer la vie, j'étais curieux au sens positif du terme. J'ai bossé comme un dingue et j'ai été le meilleur de ma classe et je voulais prouver aussi que j'étais aussi bon à l'école que dans le sport, et j'ai aussi une petite carrière sportive de haut niveau qui m'ont aidé largement à sortir de, entre guillemets, ma condition. Voilà. Je me répète, mais en effet, avoir un nom français, ça aide beaucoup. Et après, c'est les actes qu'on pose et la vie qu'on a. Parce que, étant dépendant de l'ADAS de l'époque, ça s'appelait l'ADAS.
Ouais.
Je peux vous dire que je faisais partie des 1% qui performaient. Le reste étant malheureusement, au vu des parcours de chacun et aussi l'organisation administrative, c'était pas gagné pour eux, quoi.
Voilà. Thomas, je ne sais même pas quoi rajouter. Je trouve votre témoignage extrêmement fort. Je remercie encore une fois Grégoire d'avoir en quelque sorte ouvert cette porte et d'avoir permis à d'autres comme vous, Thomas, de vous exprimer ce matin. C'est des témoignages qu'on entend très rarement. J'ai l'impression qu'on caricature tout. Et là, c'est vos paroles, c'est vos mots, c'est votre émotion, c'est votre parcours. Merci, voilà. Merci Thomas d'être passé par le 32-16. Merci de faire d'RMC ce qu'elle est aujourd'hui. Merci pour votre témoignage. Vous l'avez entendu ce matin, le 32-16 vous est particulièrement ouvert. Le témoignage de Thomas, le témoignage de Grégoire, tout cela vous les retrouverez aussi sur les réseaux sociaux en longueur. Il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et précisément, dans un instant, on va revenir aussi sur cette question-là, parce que mon invité, ce sera Olivier Estévez. Il est auteur d'une étude qui sort en librairie qui s'appelle « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Et il parle justement de la fuite silencieuse de diplômés de confession musulmane qui parfois se voient fermer des portes. Il nous raconte tout cela dans un instant sur RMC, 8h13.
RMC, Apolline Matin.
Et ces discriminations liées à l'origine, notamment au nom, au prénom, vous êtes très nombreux à les dénoncer depuis le témoignage de Grégoire ce matin sur RMC. Hello, par exemple, nous parle de sa fille de 17 ans qui porte un nom à consonance arabe. Son papa ne voulait pas lui donner son nom. Je me suis battu pour, mais ce n'était pas négociable pour lui car il a beaucoup souffert de son prénom dans sa jeunesse. Nous écrit Hello sur Direct Studio. Nous réfléchissons à ajouter mon nom de famille bien français pour que ça ne perturbe pas son envie de grandes études. Mes idées sur la France se sont effondrées quand je me suis mise en couple avec mon mari. Voilà ce que nous explique Hello sur Direct Studio. Des difficultés rencontrées également par Julien, comme Thomas à l'instant au 32-16. Lui aussi a été adopté français par filiation. Une France qu'il me considère comme un étranger dans certains endroits. Mon pays, c'est la France, nous dit Julien sur Direct Studio. Ces difficultés, est-ce qu'elles vous ont donné envie de changer de nom, de prénom? Est-ce que vous êtes allé au bout de la démarche? Vous continuez de témoigner ce matin. Ça se passe au 32-16 et sur l'appli RMC rubrique Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h16 sur RMC.
Le parti pris.
Et c'est l'heure du parti pris avec vous, Olivier Estévez, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une étude qui s'appelle « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes ». Et votre parti pris ce matin, c'est que vous dénoncez la fuite silencieuse des diplômés de confession musulmane. Vous avez mené une très large étude sur le sujet. Hasard du calendrier, on parlait ce matin du changement de prénom, qui est tout simplement dans l'actualité parce que les procédures ont été largement simplifiées pour changer de prénom ou de nom. Et vous l'avez sans doute entendu tout à l'heure, le témoignage de Grégoire, le témoignage de Thomas, c'était pas leur nom de naissance. Ils en ont changé et ils ont raconté la difficulté qu'ils ont eue, effectivement, face à parfois des recruteurs. C'était ce que nous racontait Grégoire. C'est exactement ce que vous avez constaté, mais dans une étude beaucoup plus large. Racontez-nous d'abord, Olivier Seves.
Oui, alors d'abord, commencer par dire que je ne suis pas auteur du livre, mais co-auteur. Hein, je n'ai pas envie de me faire engueuler par les
très
personnes
bien,
qui ont travaillé avec moi.
Très bien, partagé, c'est bien.
C'est un ouvrage collectif, okay. On est bien d'accord. Hein. Et donc juste, oui, commencer par dire qu'effectivement, nos travaux, donc, de fait, corroborent et précisent les témoignages individuels qui sont apportés et par Grégoire et par Thomas. Je préciserai néanmoins, et je pense que c'est très important, qu'en fait, ce qu'on a essayé d'analyser à travers notre enquête, c'est surtout la façon dont différents types de racisme sont très fortement imbriqués. C'est-à-dire que ce qui a été dit par Grégoire et par Thomas, c'est du racisme qui relève des origines, mm-hmm. de ce que la sociologie va appeler l'assignation identitaire. Nous, on s'intéresse à ça aussi, bien évidemment, enfin principalement à ça, mais aussi à un racisme qui est lié à la religion et la pratique de la religion. C'est-à-dire que lorsque Grégoire dit « Nous, les musulmans de France, on cache nos origines », on voit à travers effectivement cette phrase la forte imbrication entre les deux. Mmh. Les personnes à qui on a parlé et qui maintenant habitent à Londres, à Toronto, à Montréal, à Bruxelles et dont les études universitaires en France ont été payées par vos impôts et par les miens, mmh. Ce sont des personnes qui en fait vont trouver une banalité de la pratique de la religion musulmane, à la City de Londres, à Toronto, à Montréal, à New York, et aussi à Bruxelles. Alors, ça, je pense que Bruxelles, c'est une ville parmi d'autres, mais ça doit nous interroger précisément compte tenu de la proximité géographique entre Bruxelles et puis, je sais pas, une ville comme Lille.
Vous avez interrogé plus de 1000 personnes. Vous pouvez nous donner des exemples de parcours, parce que vous dites ils partent, mais ils partent donc après les études.
Oui, alors de façon générale, alors il y a deux volets en fait à notre travail. Il y a en fait une administration d'un questionnaire de 38 questions à 1070 personnes, et on a en plus de ça donc 139 entretiens biographiques, donc assez longs, avec des personnes qui se sont portées volontaires pour nous parler. De façon générale, ce qui se passe, c'est que ces personnes effectivement sont scolarisées en France, sont nées en France. Hein, l'écrasante majorité des personnes sont nées en France. 96% de nos enquêtés ont la nationalité française. Et puis, en fait, font des études en France, souvent des études brillantes. Hein, il y a 54% de nos enquêtés qui ont au moins bac plus 5. Mais pour beaucoup d'entre ces personnes, alors je dis pour beaucoup d'eux parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même dominant. On a des personnes qui vont trouver en fait leur ascension sociale hors de France. Pour les raisons qui sont liées, effectivement, aux témoignages de personnes comme Grégoire et Thomas, par exemple.
C'est-à-dire qu'effectivement, on leur donne leur chance ailleurs, alors qu'on les freine et on les ferme ici.
Tout à fait. C'est ce qui se passe souvent. Alors après, on a aussi des personnes qui nous disent, vous savez, enfin, c'est assez rare, mais des personnes qui nous disent, vous savez, moi, j'étais complètement intégré dans le marché du travail en France, précisément parce que je travaille dans l'informatique, où en fait, la demande d'emploi, elle est très, très forte. On recrute énormément. Et donc, j'ai beau m'appeler Asdine ou Mohamed, j'ai été recruté précisément parce que l'entreprise ne pouvait pas faire autre chose, quoi.
Donc, pour des questions.
C'est une question d'offre et de demande.
Tension. Si exactement. D'offre et de demande. Et quand la tension est grande, bon, bah, on fait pas attention à ça. Et quand on a le choix, bah, entre deux, on ne va pas choisir, comme vous dites, le Mohamed ou le Asdine. Olivier Esteves, merci. Je recommande la lecture de votre étude parce que là, pour le coup, on s'appuie vraiment et c'est très complémentaire des témoignages qu'on a pu entendre tout à l'heure. Votre étude, elle est très large, je le disais, vous avez interrogé plus de 1000 personnes, vous êtes sociologue, et le titre de cet ouvrage collectif, c'est « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », et c'est aux éditions du Seuil. Il est 8h20 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour. Arnaud Demanche est avec nous à 8h20. Salut
ça
Arnaud.
Ça va Guillemette, ça va Martin, ça va Manu, ça va Apolline.
Ouais.
Aujourd'hui, nous sommes vendredi 26, c'est un double vendredi 13.
Ah bah oui,
c'est... Et alors, pour fêter ça, Grégory, notre directeur d'antenne, vous a concocté un nouveau jeu.
Là, dans 5 minutes, il y a 26 000 euros à gagner. Quoi.
Et dans quoi? Dans le jeu des 2 fois 13 tickets à 26 000 euros, des 26 coffres à 13 chiffres. Alors, c'est simplissime. Vous appelez le 32-16, vous choisissez de parler à un de nos 13 standardistes. Ensuite, Apolline vous fera gratter un des 26 tickets qui révélera une équation à deux inconnus, la combinaison du coffre, c'est 13x fois 2y multiplié par 26 égale 0. Alors, qui l'a? Le compte est bon. Manu est fort en chiffres. Alors d'ailleurs, à ce propos,
je suis très peur tout à l'heure de résoudre,
il faut une deuxième équation, mais là.
Bah oui, non, mais là c'est trop dur. Alors tiens, puisque vous êtes fort en chiffres, je voudrais proposer à Grégory et à la direction d'RMC un jeu pour le week-end. Le chiffre et des lettres.
Ah, c'est bien ça.
Manu ferait des comptes et bons, et il ferait aussi deviner des mots avec des lettres. On serait là. Voyelle. Voyelle aussi. Alors c'est un peu redondant, mais c'est sympa.
Voilà, ça sent.
Bref, inscrivez-vous pour le jeu, il y a 26 000 balles à gratter.
Je précise que vous pouvez toujours envoyer le mot chance au 732-16 et gagner les 26 000 balles, comme vous dites.
Allez, 26 briques. Tant qu'on est dans les 26, est-ce que vous avez vu ce couple de parents dans l'Aisne qui poursuivent leur gynécologue en justice parce que leur petite fille est née avec 26 doigts? Et le médecin n'a rien détecté. Alors c'est une pathologie très rare, il y a moins de 20 cas dans le monde, donc on peut les compter sur les doigts d'une main, si on l'a. Le médecin, comment il a rien vu, quoi? Peut-être qu'il avait bu un coup de trop, il a compté les doigts, il a fait 1, 2, 6, 12, 20. Ah oui, mais j'ai bu, il faut diviser par 2, je vois double. Il arrondit à 10. Donc je préviens ce médecin, si vous nous écoutez, à la prochaine échographie. Si vous voyez 26 testicules, c'est trop. C'est que vous êtes en train d'examiner une photo de grappe de raisin. Il faut consulter un opticien ou changer de métier, monsieur.
Les ailes du Moulin Rouge sont tombées.
Oui, après Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est un nouveau monument français qui est atteint ce matin. Le Moulin Rouge, regardez, on dirait Philippe Poison. Donc le Moulin Rouge, il est connu pour ses spectacles de French Cancan, de femmes nues, d'opérettes. Je me suis renseigné, au début du siècle, le Moulin Rouge a programmé des spectacles avec des noms comme La Feuille de Vigne, ou Tais-toi, tu m'affoles, ou... le vrai nom, Voluptata. Alors, je vous laisse imaginer ce que ça peut être. En fait, c'était programmé par Égésip Fulgence Sébastien, l'arrière-grand-père de Patrick Sébastien, qui était là. Sacrebleu, c'est génial!
Non.
Ça n'est que de l'amour, ça perd l'hypopète. Et maintenant, on va avoir des clowns et des pétomanes dont les vents vont faire tourner les ailes du moulin. Pas le sang bleu, c'est formidable. Des témoins auraient vu Anne Hidalgo s'enfuir dans la nuit avec un tournevis. Elle a déclaré, mais je voulais faire des travaux, je voulais réparer les ailes. Faut arrêter maintenant, Anne. Ça suffit.
Une éolienne à Paris.
Voilà, c'est une éolienne.
La France Arnaud compte un nombre record de centenaires. Oui. Ils étaient 8000 dans les années 2000. Ils ont dépassé les 31 000 au 1er janvier dernier.
100 ans, c'est énorme, hein, 100 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. On parle de gens nés avant Joe Biden. 100 ans, c'est 365 251 tours de la Terre sur elle-même. 100 ans, c'est l'âge mental de Gabriel Attal. 100 ans, c'est gigantesque. Donc, on a 31 000 centenaires en France en 2023 et seulement quelques dizaines de dents réparties entre eux tous. Mais on peut faire des vannes sur les centenaires, on s'en fout, ils nous entendent pas. C'est des gens qui étaient déjà à la retraite il y a un moment, les centenaires. Mettons un cheminot de 107 ans qui est parti à la retraite à 52 ans. Oui. Comme ça arrive parfois, le mec est retraité depuis 1969. C'est l'année où Charles de Gaulle a démissionné. Et quand tu vas les voir en maison de retraite, ils sont là. Aujourd'hui, les jeunes, ils savent pas bosser. C'est des feignants. Ouais, ça va, papy, calme-toi. Hein. Tes premières lettres d'amour, c'est sur des parchemins. Donc,
Il y avait encore la vapeur.
Les centenaires sont majoritairement des femmes.
Évidemment.
Les EHPAD sont remplis de femmes très âgées. Quand Macron ira leur rendre visite, il vivra sa propre version des 72 vierges du paradis musulman. Elles sont réparties un peu partout.
Oh non, on peut pas le faire.
C'est bientôt fini la chronique, hein. Attention. Donc elles sont réparties un peu partout en France. Il y a un équilibre assez général sur les régions, ce qui n'est pas le cas pour les messieurs centenaires qui, eux, se retrouvent surtout au Sénat. Alors la doyenne de l'humanité, vous savez comment elle s'appelle?
Non.
C'est Maria Branias Morera. Elle est hispano-américaine. J'espère que des producteurs véreux vont pas aller la voir pour lui faire enregistrer un disque, parce que la dernière fois, ça s'est quand même mal fini.
La farandole.
Vous vous souvenez de ça?
Non.
Jeanne Calment, La Farandole, qu'elle a enregistrée à 121 ans.
Non.
Magnifique album.
Non.
Donc pitié les producteurs, pas deux fois ce coup-là. Vous avez jamais entendu ça?
Non.
La Farandole. Au futio, c'était fantastique. Allez, je file. Je fais Angers et Nantes ce week-end.
Attendez, le gagnant.
Ah oui,
les deux fois
oui,
les 13 du 26 000, du 26. Du 1. Allez, il y a Sabine qui est avec nous. Bonjour Sabine.
Bonjour.
Sabine, vous avez bien fait de vous inscrire. Vous faites quoi dans la vie?
Eh bien, je suis aide ménagère pour les personnes âgées.
Aide ménagère pour les personnes âgées, dans quel coin?
Je suis de Pain-en-Artois, près de Doulan, on va dire une demi-heure d'Arras, en gros.
Dans le Pas-de-Calais, donc. Et alors, oui. Sabine, vous connaissez le principe.
Ce matin,
donc, vous avez...
Alors,
vous pouvez choisir un chiffre entre 1 et 13, sauf le 7, qui a déjà été gratté.
Oui. Alors, avec mes enfants, on a décidé de gratter le numéro 5.
Le numéro 5, on y va, avec les enfants. Alors, attention,
meilleur
on gratte.
Chiffre. C'est le meilleur chiffre, le 5.
Oh, j'espère.
Vous avez gagné 1300 euros.
Oh, wow, punaise, bravo, c'est très bien. Oh, merci. Mais c'est génial.
Ah, c'est super, je suis très très heureuse pour vous. Bon, bah, Sabine, c'est top. Voilà.
Je vous adore.
1300 euros, mais moi aussi je vous adore.
C'est génial.
Et j'adore vos enfants, ils ont bien choisi avec vous. Il faut toujours demander aux enfants.
Bien. Oh, merci, vous êtes génial. Ne changez pas, je vous suis, je vous adore. Et bonne continuation à tout le monde, plein de bonheur.
Bon, on embrasse toute la famille. Salut Sabine.
Merci.
Salut Sabine. Très belle journée à vous et félicitations. Vous connaissez le principe. Jusqu'à ce soir, on vous fait gagner des tickets que vous grattez comme Sabine, pouvoir gagner donc à l'instant 1300 euros et il y aura peut-être jusqu'à 26 000 euros à gagner aujourd'hui pour jouer. Pour vous inscrire, vous envoyez chance au 7 32 16. Chance au 7 32 16. Bonne chance à tous. Il est 8h28. Rien à voir, la politique dans un instant. Mon invité, c'est Raphaël Glucksmann. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique aux élections européennes. Les dernières intentions de vote, les derniers sondages vous montrent montant, peut-être même un jour croisant la courbe descendante de la candidate d'Emmanuel Macron. Vous êtes aux alentours de 13% d'intentions de vote. On va y revenir bien sûr. Mais je voudrais d'abord qu'on commence par le discours du président de la République, Emmanuel Macron, hier à la Sorbonne. Discours sur l'Europe, il vous a plus dit quoi?
Moi, je l'attendais, je l'ai écouté avec attention et je suis d'accord avec le début, quand il fixe le cadre, quand il dit, il cite Valéry et il dit l'Europe est mortelle. Oui, l'Europe est mortelle. Mais alors, si l'Europe est mortelle, derrière, on doit avoir un discours qui n'est pas à ce niveau-là. Il y a 1h50 de discours.
Niveau,
non, mais il y a 1h50 de discours.
1h48 précisément.
Bon, alors je vous laisse 1h48.
Mais on a compté discours, tant il était long.
Sur un discours aussi long, qu'est-ce qui reste ensuite? C'est quoi les mesures qui sont annoncées? C'est quoi finalement l'élan qui est redonné pour l'Europe? Moi, je ne l'ai pas vu. Alors sur la question de l'Europe de la défense face à la guerre, il y a des pistes qui sont intéressantes, mais on n'est plus au temps des pistes. Et ensuite, il y a quand même deux immenses absents.
Lesquels?
Il y a d'abord la question de la solidarité sociale. 1h50 de discours, rien sur la pauvreté, rien sur la misère, rien sur la solidarité qui est nécessaire dans les sociétés européennes, justement pour préserver nos démocraties, pour préserver nos institutions. Là-dessus, rien. Et ça, c'est pas une surprise après cette année de gouvernement Emmanuel Macron. Mais deuxièmement, l'écologie. Attends, quand on parle de risques mortels pour l'Europe et pour notre civilisation. Traiter l'écologie en 3 minutes sans aucune annonce concrète sur la biodiversité, sur la protection des océans, sur la protection de la nature, je pense que c'est le signe des priorités fixées par le président.
On va revenir point par point sur ce que vous venez de dire. Le constat d'abord, effectivement, cette phrase, notre Europe est mortelle, il y a un risque immense de se retrouver relégué. C'est la mise en garde très dramatique d'Emmanuel Macron. Et là-dessus, c'est aussi ce que vous dites. Vous dites,
il a
à longueur
raison
de...
là-dessus.
Vous dites, moi, l'Europe est en danger.
Vous me connaissez, je ne suis pas pavlovien. Quand le président de la République dit quelque chose qui est juste, je le dis, il a raison. Nous sommes face à un danger.
Je me suis même dit qu'en écoutant Emmanuel Macron, vous deviez être embêté de vous sentir d'accord. Parce qu'effectivement, vous avez le même élan. C'est-à-dire, vous dites, l'Europe est en danger, il dit, elle peut mourir. Mais vous dites, il faut un sursaut, il faut la réveiller. Il dit exactement les mêmes mots.
Moi, je crois à ce que je dis. Donc, quand je dis que l'Europe est face à un danger mortel. Quand je dis que nous sommes à la croisée des chemins et que la question qui se pose à nous maintenant, c'est la vieille question de Hamlet, c'est être ou ne pas être, eh bien, je le pense sincèrement. Donc le fait que le président de la France, qui a quand même une petite influence sur la destinée du continent européen, dise la même chose, eh bien, au contraire, je suis content, je suis heureux qu'on partage ce constat. Mais moi, ce qui ne me va pas, c'est que ce constat, il nous oblige. Et que derrière ce constat, qui est réel, et il faut que les auditrices, les auditeurs, les téléspectatrices et téléspectateurs nous entendent, c'est vrai, il y a un danger mortel sur l'Europe. Si l'Ukraine s'effondre, si le front ukrainien s'effondre, eh bien c'est la paix et la sécurité du continent européen dans son ensemble.
Là encore, Emmanuel Macron, il dit qu'il souhaite une Europe puissante, ambitieuse. L'Ukraine ne peut pas perdre face à la Russie. Et d'ailleurs, à propos de l'aide à l'Ukraine, il dit qu'il n'y a pas de limite. Il dit, si nous disons que l'Europe est la condition de notre sécurité, que se joue en Ukraine davantage que la seule souveraineté territoriale de ce pays, mais la sécurité de nous, Européens, alors avons-nous des limites ? Non.
Mais
vous
alors,
auriez pu prononcer cette phrase.
Dans ce cas-là, au lieu de faire des grandes phrases, et c'est la réaction de tous les Européens que j'ai rencontrés, au lieu de faire des grandes phrases, que la France agisse. Vous savez, après plus de deux ans de guerre, nous ne sommes pas capables de livrer sur le front ukrainien plus de 5000 obus par mois. Alors que les Russes en tirent 20 000 par jour. Les contrats à long terme avec nos industriels ne sont toujours pas passés. La France est à la traîne de l'aide à l'Ukraine. Alors Emmanuel Macron, il fait des grandes phrases, mais derrière, ça ne suit pas. Il n'y a pas de réorganisation de notre industrie de la défense. Il n'y a pas les livraisons qui sont attendues. La France fait sauter dans les textes européens le terme de priorisation qui vise à donner la priorité au front ukrainien, par exemple, par rapport à nos livraisons à Doha ou à Abu Dhabi, au Qatar, aux Émirats.
Il y a un décalage entre les mots et les actes.
Les actes de solidarité. Où sont les mirages que demandent les Ukrainiens ? Eh bien, ils ne sont toujours pas livrés et la France refuse toujours de les livrer. Et donc, avant de faire des grandes phrases qui, bien sûr, sont importantes, mais qui engagent des débats littéraires dont nous avons la spécialité en France sur l'envoi de troupes, pas l'envoi de troupes, j'ai pas envie d'aller mourir sur le front. Personne ne demande aux Français cela. Pas les Ukrainiens en premier lieu. Eh bien, avant d'engager ces débats littéraires, on doit agir. Et vous savez, il y a un terme en Ukraine qui est né dès le début de la guerre. Un terme qui s'appelle macroné. Macroné. Les Ukrainiens, ils disent macroné pour faire des grandes phrases. Et ensuite, agir.
C'était même à la une de certains journaux ukrainiens, macroné.
C'est devenu un terme en Europe, macroné. Et il faut comprendre ça. Moi, mes collègues européens, y compris dans le groupe de gauche social-démocrate au Parlement européen, en 2019, quand je suis arrivé, eh bien, c'était très compliqué de leur expliquer pourquoi nous, on jugeait l'action d'Emmanuel Macron critiquable, pourquoi on était dans l'opposition, parce qu'il avait cette image comme ça de réformateur européen. Et que c'était, finalement, il y a eu une sorte d'engouement en Europe pour lui au début, suite notamment au discours de la Sorbonne.
Le premier discours,
eh bien,
la Sorbonne 1,
quand il n'y avait pas encore de bilan et qu'il a exposé sa vision de l'Europe. Et moi-même, à l'époque, j'avais dit que j'avais trouvé ce discours bon. Eh bien, aujourd'hui, vous prenez les mêmes députés européens et ils ont été déçus au-delà de tout. Et son discours d'hier, ils ne l'ont même pas écouté parce qu'en fait, il y a ce terme macroné qui s'est institué dans les institutions européennes.
Raphaël Glucksmann, si on en vient concrètement à cette Europe de la défense à laquelle il appelle, mais vous aussi, vous appelez à cette Europe, à une révolution sécuritaire, comme vous dites, à l'idée d'une Europe de la défense et de la sécurité. Concrètement, est-ce que ça veut dire mettre en commun, par exemple, vous parlez de cette histoire d'obus que l'on ne livrerait pas suffisamment, d'économies de guerre qu'il faudrait déclencher, mettre en place. Est-ce que tout cela, vous appelez à ce que ce soit dépassé et que ce ne soit plus au niveau national, mais au niveau européen. Jusqu'où est-ce qu'on va dans une forme de fédéralisation de cette Europe de la défense ?
C'est d'abord mettre en commun nos capacités de production. Vous savez, face à la pandémie, eh bien, l'Europe a fait deux choses qui étaient des pas en avant extraordinaires face à un virus. D'abord, un emprunt commun, une mutualisation des dettes.
Et vous appelez d'ailleurs à un emprunt commun pour cette Europe de la défense.
Un emprunt commun pour l'Europe de la défense. 100 milliards pour investir dans le réarmement de nos nations, pour nous protéger, pour être capable d'assurer nous-mêmes notre sécurité. Et ensuite, la Commission européenne s'était transformée en centrale d'achat et de commande de vaccins. Et c'est pour ça qu'on a eu des vaccins. C'est grâce à cela. C'est parce qu'on a été capable de le faire à l'échelle européenne.
Donc on devrait commander.
Eh bien, la Commission doit centraliser les commandes d'armement et organiser les livraisons d'armes vers l'Ukraine. Parce que c'est que comme ça, à l'échelle européenne, qu'on aura les fonds nécessaires, la vision nécessaire, le cap nécessaire pour réorganiser nos organes de production. Et c'est vital. Encore une fois, j'aimerais que les gens comprennent. Le 5 novembre 2024, on a des élections aux États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump peut être président des États-Unis. Eh bien, si Donald Trump est président des États-Unis, nous serons seuls en Europe. seul face à la guerre, seul face à Poutine. Est-ce que, en l'état actuel des choses, nous sommes capables d'assumer cela en Europe? Non. Donc on a très peu de temps pour se réorganiser. C'est une urgence absolue et vitale.
Un bouclier antimissile européen, vous êtes pour?
Ça fait partie des pistes de réflexion, mais ça c'est du long terme, si je peux me permettre.
Mais est-ce que vous seriez pour engager...
Moi je suis pour tout.
Cette planification.
Tout ce qui est utile à la sécurité des Européennes et des Européens. Et je ne ferai jamais de la politique pavlovienne avec la sécurité des Européennes et des Européens. Donc c'est une piste de réflexion. Mais avant cela, le premier bouclier des Européens, c'est la résistance ukrainienne. Le premier bouclier des Européens, aujourd'hui, il est en train de se faire enfoncer. Pas parce que les Ukrainiens manquent de courage, ils nous ont montré à quel point ils étaient courageux, mais parce que nous, en Europe, nous, en Occident, nous ne livrons pas ce que nous promettons de livrer.
Jusqu'où on va, Raphaël Glucksmann, dans la mutualisation des capacités et des prises de décision? Est-ce qu'il faut que la France garde la bombe atomique?
Oui, il faut que la France garde sa capacité de dissuasion nucléaire. Par contre, et donc sa capacité à décider de la manière dont elle utilise la bombe atomique. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faut réviser notre doctrine d'utilisation et considérer que l'Union européenne est l'intérêt vital de la France. Et donc,
c'est-à-dire que ce ne serait pas que pour protéger la France, mais pour protéger l'ensemble du territoire européen.
C'est déjà la réflexion qui est engagée.
Sur la question du siège de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce que vous estimez que la France garde pour elle seule ce siège ou est-ce qu'il faut qu'on le partage?
Pour l'instant, en tout cas sans réforme profonde des institutions européennes, il faut que la France garde son siège. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des institutions européennes qui conduisent à l'apathie. Et c'est pour ça qu'il faut les changer. Et c'était d'ailleurs très peu présent dans le discours d'Emmanuel Macron. Il faut changer les institutions européennes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un Viktor Orban qui peut tout bloquer. Et donc quoi, à l'ONU, qu'est-ce qui se passerait?
Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable à ce que les décisions soient prises davantage à la majorité qu'à l'unanimité?
Je suis favorable à ce que les décisions soient prises davantage à la majorité qu'à l'unanimité. Pour ne plus être l'otage de un ou deux vétos.
Enfin, demain,
c'est vrai sur les questions de défense.
C'est vrai ce que je veux dire, c'est que, évidemment, aujourd'hui, vous prenez l'exemple de Viktor Orban, mais si c'est l'inverse, si l'ensemble de l'Europe est dans une idéologie qui n'est pas la nôtre.
Et à un moment, il faudra qu'on choisisse. Est-ce qu'on veut faire l'Europe ou pas? Est-ce que la France veut rester la France? Si la France veut rester la France, eh bien, elle veut avoir voix au chapitre dans l'histoire mondiale.
Vous l'avez vu, il y a ce projet de réforme des traités.
Et c'est la seule manière de faire, c'est de rendre l'Europe efficace. Si on veut construire l'Europe puissance, si on veut construire une Europe cohérente, eh bien, il faut changer les institutions. Et je vais vous dire, c'est pas que sur les questions de défense, sur les questions fiscales. Quand vous avez un Starbucks et un PMU qui est au coin de la même rue, ne paye pas les mêmes impôts, parce que Starbucks paye ses impôts aux Pays-Bas, eh bien, il faut l'Europe fiscale. Mais le problème qu'on a, c'est que
ces décisions à l'unanimité font des paradis fiscaux. Sur le plus 10 ans.
Mais non, justement, c'est les paradis fiscaux qui aujourd'hui bloquent la majorité des pays européens qui voudraient, eh bien, avoir la justice fiscale et la cohérence fiscale en Europe.
Ce projet de réforme des traités qui généraliserait davantage les règles de majorité, c'est une forme de fédéralisation. C'est ce que dénoncent un certain nombre de personnalités issues de la gauche, Arnaud Montebourg, Marcel Gauchet, Pierre-André Taguieff, qui appellent à un sursaut sur ces questions-là et à refuser précisément les règles que vous-même vous appelez.
J'ai lu ce texte. C'est un débat extrêmement profond. Et d'ailleurs,
un appel qu'ils ont lancé dans le Figaro il y a deux jours.
Qui divise la gauche et qui divise la droite. Et qui divise la gauche depuis extrêmement longtemps. Mais moi, je suis convaincu que si nous voulons récupérer la main face aux multinationales, si nous voulons mener à bien la lutte contre le réchauffement climatique, si nous voulons pouvoir contrôler notre destin, eh bien, nous avons besoin de déléguer de la souveraineté à l'échelle européenne. Parce que c'est à l'échelle européenne qu'on pourra prendre les décisions qui nous permettront de reprendre le contrôle sur le cours des choses.
Raphaël Glucksmann, vous avez peut-être vu ces images de Sciences Po. Je crois que vous avez vous-même été diplômé de Sciences Po Paris, qui est donc cette école assez emblématique au cœur de la capitale, avec un des campus qui avait été occupé puis évacué par des forces de l'ordre. D'autres étudiants sont revenus. Ce sont des étudiants pro-palestiniens qui occupent une partie du campus. La direction a précisé la raison pour laquelle ils avaient évacué ces étudiants. Je les cite. L'amphithéâtre extérieur du campus a été occupé par une soixantaine d'étudiants militants en faveur de la cause palestinienne, contribuant à un fort climat de tension pour les étudiants, les enseignants et les salariés de l'école. La direction avait donc pris la décision d'évacuer ces étudiants qui sont donc visiblement pour une partie revenus. Comment vous réagissez à ça?
Alors déjà,
Site de Sciences Po Paris est bloqué au moment où on se parle.
Qu'on fasse preuve de solidarité à l'égard des Palestiniens, qu'on montre le rejet des crimes qui sont commis à Gaza, c'est naturel, c'est même digne et c'est noble. Après, dans quelle atmosphère on le fait? Et est-ce qu'on est inclusif? Est-ce qu'on tolère le débat? Est-ce qu'on est capable d'organiser des discussions avec ceux qui ne partagent pas le point de vue? Et jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas. Et donc, on a un problème. Et la direction de Sciences Po a le droit de décider d'évacuer.
Vous comprenez que la direction de Sciences Po dise d'évacuer.
Ce que je veux dire, c'est que franchement,
ça fait écho à ce qui se passe dans les universités américaines, et notamment Columbia au cœur de New York.
Il faut qu'on entende aussi ce message. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement en Israël qui est en train de raser la bande de Gaza. Et il faut un élan de solidarité. Et oui, la Commission européenne, l'Union européenne, a été aphone sur le sort des civils palestiniens. Et donc ça ne suffit pas de répéter que nous voulons une solution à deux États. Il faut avoir un agenda qui permette l'émergence
de cette solution. Vous estimez que l'Union européenne, que la Commission européenne n'a pas suffisamment répondu?
Ah mais j'estime totalement. Et j'estime qu'il est temps de faire beaucoup plus pression sur le gouvernement israélien. On ne peut pas dire simplement, on veut une solution à deux États, et ensuite laisser s'étendre sans cesse les colonies en Cisjordanie. Il faut qu'on montre un agenda qui soit clair, et là-dessus, moi je soutiens les efforts du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour qu'on aboutisse à une reconnaissance de l'État palestinien, pour qu'on montre qu'en fait on est réellement attaché au fait que cet État émerge, et que c'est pas juste une pétition de principe, parce que nous, des résolutions au Parlement européen qui disent il faut une solution à deux États, on en a signé des centaines. Mais sur quoi ça débouche? Donc il faut que ce soit concret.
Raphaël Glucksmann, il y a de nombreux points sur lesquels je voudrais encore vous entendre, et notamment la question des finances publiques. C'est les agences de notation qui vont rendre leur copie ce soir. Est-ce qu'il faut, parce que c'est l'un des objectifs qui justifie les demandes d'économie aujourd'hui du ministre de l'économie, est-ce qu'il faut absolument suivre les injonctions de l'Union européenne à réduire le déficit, à réduire la dette et à respecter les règles et les traités européens là-dessus?
Mais les agences de notation, déjà, c'est pas la Bible. Enfin, il faut le dire, c'est-à-dire que c'est très important ce qui se passe, et le débat sur les finances publiques, c'est extrêmement important. Mais les agences de notation, je vous rappelle quand même que Standard & Poor's avait donné un triple A à Lehman Brothers juste avant l'effondrement, qui a conduit à l'effondrement généralisé. Donc en fait, il faut arrêter aussi de considérer que ces agences, souvent nord-américaines, anglo-saxonnes en tout cas, eh bien, sont des paroles d'oracle. Donc, on se calme, c'est pas la Bible. C'est des agences de notation. Et ensuite,
mais sur la trajectoire, c'est-à-dire,
ensuite,
est-ce qu'effectivement,
contre,
il faut
débat
absolument
à voir sur les finances publiques. On a un vrai
tout
débat
ça
à voir
quand même aussi des règles européennes. Hein.
Oui, on a un vrai débat à voir sur les finances publiques. Et la première question, c'est pourquoi, quand on est face au déficit, quand on est face à la dette, pourquoi est-ce qu'on va d'abord au gouvernement taper les droits des chômeurs? Pourquoi est-ce qu'on va d'abord taper la prime Rénov'? Pourquoi est-ce qu'on va d'abord s'attaquer à des dépenses qui ont une effectivité sociale immense?
Donc des économies, oui, mais c'est pas celle-là que vous feriez.
Mais pourquoi on se pose pas la question des recettes? Pourquoi on se pose pas la question du fait qu'il y a aujourd'hui des milliardaires qui payent un taux d'imposition qui est plus faible que celui des classes moyennes par rapport à leur fortune? Pourquoi on se pose pas la question de la taxation des super profits? Pourquoi on se pose pas la question des recettes là où l'argent existe? Moi, je suis d'accord, il y a pas d'argent magique, mais il y a de l'argent qui existe. Il y a des records
donc,
de dividendes qui sont versés chaque
vous
année.
Vous iriez chercher, par exemple, dans les dividendes, vous iriez chercher dans les super profits.
Les dividendes sont moins taxés en Europe que le travail. Et c'est vraiment le monde à l'envers. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est taxer les dividendes
les
plus
dividendes,
que
c'est
le travail.
Capital, hein.
Oui, les dividendes plus que le travail. Et ce qu'on veut aussi, et on a lancé une grande initiative citoyenne européenne à cette fin, c'est que les multimillionnaires et les milliardaires en Europe soient taxés à la hauteur de leur patrimoine pour contribuer à la solidarité et pour contribuer justement à faire face à ce mur du déficit et de la dette. Donc moi, je trouve que le gouvernement a une attitude profondément dogmatique, idéologique. Ils ont dit, dès le début, on ne touchera pas aux plus riches, on n'y touchera pas, y compris aux multinationales, on n'y touchera pas. Et donc, du coup, on cherche des réductions de dépenses qui vont affecter qui? Bien ceux qui sont déjà les plus faibles dans notre société. Et c'est une divergence fondamentale. Vous me posiez la question de, bah alors vous avez aimé le discours d'Emmanuel Macron? Bah moi je vais vous répondre non, pour une raison très simple, c'est que pas un mot dans son discours et pas un geste dans ses actions ne touche les gens qui sont aujourd'hui les victimes dans notre société, ne touche les gens qui sont les victimes de l'injustice et des inégalités. Et l'initiative qu'on porte à l'échelle européenne, c'est pas contre les riches. D'ailleurs, il y a des milliardaires et des millionnaires qui ont signé notre initiative pour un impôt sur les plus hauts patrimoines à l'échelle européenne. C'est une initiative contre l'injustice. Et il y a des gens qui sont extrêmement riches, qui veulent contribuer à la solidarité. Et donc le gouvernement a une attitude là qui est dogmatique.
Raphaël Glucksmann, la GPA, louer le corps d'une femme pour qu'elle soit mère porteuse, est-ce que vous estimez, vous, que c'est l'ultime étape d'un libéralisme économique, ou est-ce que vous estimez au contraire que c'est un progrès social et sociétal? Le Parlement européen a dû se pencher aussi sur cette question.
plusieurs fois. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est une question qui est vertigineuse et qui divise l'ensemble des groupes et l'ensemble des délégations.
Et qui traversent la gauche, la droite.
La droite, exactement. Et il y a des sujets comme ça qui sont tellement intimes qu'en fait, ils divisent les familles politiques et c'est plus en fonction de couleur dogmatique.
Donc moi, je vais vous dire ma position. Vous en pensez quoi ?
Moi, je pense que la GPA, quand elle n'est pas commerciale, je suis pour. La GPA commerciale, je suis contre. Voilà, donc ça veut dire que...
Comment vous distinguez, comment vous arrivez à savoir...
Quand il n'y a pas rémunération, quand il n'y a pas d'échange mercantile. Oui, quand il n'y a pas d'échange mercantile, quand ça ne rentre pas dans les logiques du marché. Moi, je ne veux pas...
Payer une femme pour louer son ventre, non.
Je ne veux pas d'institution, d'un système où en fait on a les plus riches qui bénéficient dans des contrats du corps des plus pauvres. Et voilà, ça je n'en veux pas. Par contre, le fait qu'il y ait une transaction qui soit non financière, qui soit une aide apportée, eh bien là-dessus je ne comprendrais pas qu'on l'interdise.
Donc à la question d'associer la GPA à la traite d'êtres humains, puisque c'était l'une des premières étapes d'une résolution votée, vous diriez quoi
là-dessus? Je sais vous parler de ce que M. Bellamy a proposé.
Au Parlement européen.
Eh bien, non. C'est pas associer la GPA, il faut être précis, c'est pas associer la GPA
Allez-y,
à la traite.
Allez-y, dites-nous exactement de quoi
il
s'agit.
Voilà, ce qu'il s'agit, c'est de condamner les GPA qui peuvent être associés à la traite, dans le cadre de la traite des êtres humains. Donc évidemment, on est tous, enfin, je pense que vous aussi, tout le monde est contre la GPA quand elle est dans le cadre d'une traite d'êtres humains et d'un système qui oblige la personne. Mais c'est pas une condamnation de toute forme de GPA comme étant une traite d'êtres humains, il faut être précis.
Vous pensez faire autant qu'Yannick Jadot en 2019?
Alors, je me suis promis une chose, et même vous, malgré votre talent et votre puissance, vous n'allez pas me faire dévier de ma ligne. Je ne parlerai pas de score, je ne fixerai pas d'objectifs chiffrés.
Alors moi, je vais en parler, parce que le candidat écolo aux européennes de 2019, c'était le troisième homme. Il avait fait 13,5%. Les sondages aujourd'hui vous créditent à peu près du même score, entre 13 et 14%. Est-ce que... Au-delà du score, c'est pas aussi cette question de cet électorat de gauche qui s'était porté sur Yannick Jadot comme étant l'homme de gauche acceptable d'une gauche qui ne veut pas voter LFI?
Moi, ce que je vois, c'est que dans nos meetings, dans nos rassemblements, il y a plus en plus de monde et que les gens ont l'air heureux et qu'ils ont la flamme dans les yeux et qu'ils semblent enfin redevenus en accord avec eux-mêmes. C'est ça que je note, moi, encore plus que les sondages. Ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a le sentiment comme ça de respirer à nouveau. Pour les gens qui sont fondamentalement attachés à la solidarité sociale, à la transformation écologique, au cadre européen, au projet européen et à la démocratie, il y avait l'impression de devoir se scinder à chaque élection. Et là, moi, l'offre qu'on propose, elle est simple. On vous dit, mais vous n'êtes pas obligé de vous scinder quand vous vous rendez dans l'isoloir. Vous pouvez voter en accord avec vous-même. Vous pouvez voter avec le sourire. Et ça crée une forme d'enthousiasme. Et moi, j'ai un message, c'est la gauche de Robert Badinter, de Jacques Delors, humaniste, attachée à la construction européenne, elle n'est pas morte, elle est en train de revivre et on la voit partout. Il y a des millions de Françaises et de Français qui aspirent à ça et qui veulent respirer et qui veulent s'investir.
Et on l'a bien compris, vous êtes donc tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique aux élections européennes. Merci Raphaël Glucksmann d'avoir répondu à mes questions. 8h53 sur RMC et BFM TV. Dans un instant, vous retrouvez les grandes gueules sur RMC avec Alain Marchal. Alain, qui sont les GG du jour?
Eh bien, nos grandes gueules sont l'ancien policier du raid de Bruno Pomard, le médecin généraliste Jérôme Marty, Joël Dagosséry, la coach de vie. Nous reparlerons de ce que dit l'entourage de Kenji Girac ce matin. Ils en veulent visiblement au procureur d'avoir été trop précis dans ce qu'il a raconté. Le procureur, il a parlé des problèmes du couple, Kenji, sa femme, sur le mode de vie, notamment de gens du voyage. Il a parlé des problèmes d'addiction de Kenji Girac, cocaïne, alcool, et ça les gêne. Alors, est-ce que ça vous gêne aussi? Est-ce que le procureur a été trop loin dans ce qu'il a dit, trop... intrusif dans la vie privée? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Nous reviendrons aussi sur l'occupation de Sciences Po par une cinquantaine d'étudiants pour soutenir la Palestine, les Palestiniens. Est-ce qu'il faut les sortir de Sciences Po? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Et puis on parlera GPA et Parlement européen. Voilà, vous voulez réagir? Les grandes gueules, c'est fait pour vous. Ça commence à 9h et ça court jusqu'à midi.
A tout de suite Alain, juste après la météo et les infos de 9h sur RMC pour Les Grandes Gueules.